Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer par un petit jeu. Tout le monde va se mettre debout. Et si vous êtes d'accord avec les affirmations que je vais énoncer, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, je vous demanderai de rester debout. Par contre, si ce n'est pas le cas, je vous demanderai de vous asseoir. Et je préviens tout de suite, cela va vous demander d'être honnête. Première affirmation, je n'ai jamais braqué une banque. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, il faut rester debout. Enfin, je suppose, hein. Donc, vous avez compris le principe. Si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, vous restez debout. Donc, je n'ai jamais braqué une banque. J'espère que, effectivement, ce n'est pas le cas. Deuxième affirmation, je ne me suis jamais bagarré. Alors, on ne juge pas les autres, ceux qui se sont assis. Donc, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous restez debout. Continuez à écouter. Donc, tout le monde peut se relever. Ou pas, hein, mais... Je n'ai jamais triché un examen. Je continue. Je n'ai jamais dérobé quoi que ce soit. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Je continue. Je n'ai jamais provoqué de conflit avec qui que ce soit. Je n'ai jamais provoqué de conflit avec qui que ce soit. Je continue, je n'ai jamais dit de mal de personne. Bah, peut-être que ceux qui sont debout n'ont jamais dit de mal de personne. Et dernière affirmation, je n'ai jamais menti. À ce jeu de la vérité, nous constatons tous que Dieu dit vrai dans sa parole. Il n'y a pas injuste. Aucun d'entre nous, et si j'avais joué le jeu, je me serais assis plusieurs fois aussi, aucun d'entre nous ne peut se tenir debout devant Dieu et prétendre qu'il est juste. Il n'y a pas injuste. Tous les êtres humains, et nous ne sommes ici qu'une seule, une toute petite partie de l'humanité, tous sont pécheurs. Depuis le mois dernier, nous lisons, nous étudions, nous méditons sur la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Au chapitre 1, Paul évoque son désir d'aller les visiter. Il ne les a pas encore rencontrés, il voudrait bien aller les voir. Il dit même « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile ». Il dit dans ce même chapitre qu'il n'a pas honte de cet Évangile, de ce message par lequel Dieu conduit au salut tous ceux qui croient. Juifs comme non-juifs. Dans ce même chapitre 1, Paul brosse le sombre tableau des hommes qui ont volontairement étouffé la vérité au sujet de Dieu, qui ont préféré adorer la créature à la place du Créateur. Et contre une telle injustice, contre une telle impiété, Dieu qui est juste révèle sa colère et abandonne ces hommes et ces femmes à leurs actions dégradantes, à leurs pensées déréglées. Au chapitre 2 que nous avons abordé il y a 2 semaines, Paul s'adresse à ceux qui jugent les autres, mais qui ne sont pas meilleurs qu'eux. Paul interpelle en particulier le juif, qui pense échapper à la condamnation de Dieu parce qu'il fait partie du peuple d'Israël, parce qu'il possède la loi de Dieu, parce qu'il possède la circoncision. Paul ne veut pas laisser un tel juif dans l'illusion. S'il ne met pas en pratique ce que Dieu dit dans sa loi, autrement dit, s'il pêche, non seulement Dieu ne va pas le justifier, mais en réalité, ce juif déshonore Dieu devant les autres nations. Et nous arrivons au chapitre 3 que Clément nous a lu tout à l'heure. Et la conclusion de Paul est écrite noir sur blanc. Juifs et non-juifs sont pécheurs, coupables devant Dieu. Pourquoi Paul insiste-t-il autant sur les juifs et les non-juifs et sur cette culpabilité qui les caractérise? Eh bien, lorsque nous prenons l'ensemble de la lettre aux Romains, nous découvrons qu'à Rome, en fait, eh bien, tout ne se passait pas si bien entre chrétiens. Nous découvrons que d'un côté, nous avons des croyants d'origine juive et de l'autre, des croyants d'origine non-juive et qu'il y avait des tensions entre eux. Paul l'a appris et il a entrepris de répondre à cette situation. Comment a-t-il répondu à cette situation? De quelle manière? Eh bien, en leur disant que devant Dieu, aucun n'est meilleur que l'autre. Tous ont péché, juifs comme non-juifs. Et tous ont besoin de la même grâce de Dieu. Tous ont besoin du même Sauveur, Jésus-Christ. Tous ont besoin du même Évangile. Tous ont péché, et nous l'avons vu lors du petit jeu de tout à l'heure, nous sommes aussi concernés par ce que dit l'apôtre Paul. L'examen d'aujourd'hui va encore nous faire mal. En tout cas, ça m'a fait mal lorsque j'ai préparé ce texte durant la semaine. Et voici ma prière pour cet après-midi. Que le Seigneur, par sa parole et par son esprit, expose une nouvelle fois nos péchés, notre état de pécheur. Qu'il puisse mettre cela en lumière. Et pour cela, deux vérités nous sont enseignées dans notre texte. D'abord, Dieu n'est pas injuste. Et deuxièmement, il n'y a pas injuste. Vous avez compris ? Dieu n'est pas injuste et il n'y a pas injuste. Pas même un seul. Dans un de ses livres, Paul Washer pose la question suivante. Voulons-nous vraiment d'un Dieu juste ? Voulons-nous vraiment d'un Dieu juste, qui soit juste? Voulons-nous vraiment d'un Dieu qui se mette en colère quand l'injustice est commise? Et au regard de l'état de notre monde actuel, nous répondrions sans hésiter oui. Oui, nous voulons d'un Dieu juste qui fait payer aux criminels ce que méritent leurs crimes. Oui, nous voulons d'un Dieu juste qui défend notre droit face à ceux qui nous accusent faussement ou qui nous font du tort. Mais voulons-nous vraiment d'un Dieu juste qui s'occupe de notre cas personnel lorsque nous sommes coupables devant lui? Et je crois que nous avons de quoi trembler à la perspective qu'un tel Dieu juste existe. Paul affirme dans notre texte, comme dans le reste de la Bible, que Dieu est un Dieu juste. Précédemment, il a dénoncé la fausse assurance du Juif qui pensait échapper au jugement de Dieu parce qu'il avait la loi et la circoncision. Et maintenant, Paul poursuit, verset 1, « Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ?» Verset 2, « Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux, les Juifs, que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Il y a des avantages à être juif, à être né dans une famille juive, à appartenir à l'une des 12 tribus d'Israël, à hériter d'une longue histoire où Dieu a secouru tant de fois son peuple avec qui il a fait alliance. Mais pour ce qui est du jugement de Dieu, être juif n'apporte aucun plus. Au contraire, puisque le juif connaît la loi de Dieu, il est d'autant plus responsable quand il n'obéit pas à cette loi. Paul évoque néanmoins un grand avantage pour les Juifs. En premier lieu, parce que Dieu a appelé Abraham, Isaac et Jacob, il s'est attaché à leurs descendants, à ce peuple qu'il a voulu sien, et il s'est révélé à eux par ses paroles. Voilà le grand avantage des Juifs. De tous les peuples de la terre, Dieu en a choisi un à qui il a fait des promesses. Un à qui il a donné des commandements. Un à qui il a révélé sa grandeur, sa sainteté et son amour de manière particulière. Donc oui, le privilège des Juifs est grand. Et à ce moment du texte, Paul use de rhétorique pour mettre en lumière le raisonnement absurde de certains au sujet de Dieu. Par exemple, verset 3. « Que dire si quelques-uns n'ont pas cru ? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ?» Voici donc le raisonnement. Dieu a fait des promesses à Israël, promesses de bénédiction. Et toi, Paul, tu dis qu'être juif ne nous fera pas échapper au jugement de Dieu ? Alors, si certains n'ont pas cru, ou si certains n'ont pas été fidèles, et que tu dis qu'ils seront condamnés, que reste-t-il des promesses de Dieu ? Si Dieu a promis de bénir son peuple, et que tu dis que certains vont être condamnés, que reste-t-il de ces promesses ? Si certains juifs sont condamnés, alors que valent les promesses de Dieu pour Israël ? Verset 4, certainement pas. Leur incrédulité n'annulera pas la fidélité de Dieu. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Reconnaissons que Dieu est vrai, qu'il dit vrai, qu'il ne se trompe jamais dans ses paroles, qu'il ne manque jamais à sa parole, à ses promesses. Dieu est vrai alors que tout homme est menteur. Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, qui n'a jamais menti, en fait, tout le monde s'est assis. Dieu est vrai alors que tout homme est menteur. Et savez-vous d'où vient la citation que Paul évoque au verset 4. Alors certains ont étudié le texte, donc vous devez savoir d'où ça vient. Ainsi, tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. D'où ça vient ? Non, vous n'avez pas creusé la question ? Eh bien, ça vient, oui. Psaume 51, verset 6, c'est très précis. Ça vient du psaume 51, et vous connaissez ce psaume sans doute. Ce psaume où le roi David, qui a commis un adultère, qui a prémédité un meurtre, se repent et reconnaît que Dieu, en fait, est parfaitement juste. Alors je reprends justement ce verset, psaume 51, verset 6, où David dit « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Si Dieu exécute son jugement quand un membre de son peuple pêche, eh bien, il est reconnu comme juste. Il a raison de le faire. Et cela ne porte pas atteinte à ses promesses. Alors vient une autre objection, une autre absurdité. Le verset 5. Mais si notre injustice, suivez le raisonnement, mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle ici à la manière des hommes. Ou encore de manière peut-être plus claire, verset 7. « Et si mon mensonge, moi qui suis menteur, si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien ?» Voici un raisonnement tout humain, et nous dirions même tordu. Autrement dit, si je comprends bien, quand je suis injuste, quand je pêche, Dieu apparaît alors comme juste et vrai. Ça met cela en valeur. Donc il n'a aucune raison, Dieu n'a aucune raison de se mettre en colère contre moi, puisque je favorise le fait qu'ainsi il apparaît comme juste. Par le mal que je fais, je contribue à sa gloire. Voilà le raisonnement absurde, farfelu, tordu, que peut-être certains, effectivement, à l'époque, avaient. Puisque, dans ce cas-là, autant que je sois encore plus injuste, comme ça, Dieu apparaît encore plus juste. Quelle absurdité. Et l'apôtre Paul coupe court à ces raisonnements. Plus loin dans la lettre, il reprendra ses objections pour y répondre, particulièrement au chapitre 6. Il est vain pour un pécheur d'espérer échapper au jugement de Dieu. Non, notre injustice ne sert pas à faire briller la justice de Dieu. Notre injustice mérite la juste colère de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est juste. Dieu se révèle à nous dans sa parole comme un Dieu fidèle, juste et vrai. Et si Dieu déchaîne sa colère, il le fait à juste titre, en réponse à l'injustice. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à d'autres moments, nous-mêmes face à une injustice qui nous est faite ou qui est faite à un membre de notre famille ou qui est faite à n'importe qui dans la société, nous-mêmes nous ressentons de la colère. À combien plus forte raison, Dieu qui est saint, Dieu qui est juste, Dieu qui est totalement étranger au péché, qui déteste le péché, doit réagir au mal par sa colère et par son jugement. Est-ce que nous acceptons une telle vérité ? Voulons-nous vraiment d'un Dieu juste ? Voulons-nous vraiment d'un Dieu qui nous dise la vérité à notre sujet ? Et une vérité qui n'est pas plaisante à entendre. Voulons-nous vraiment d'un Dieu qui nous dise que nous ne sommes pas justes ? Et qu'importe en fait que nous le voulions ou non, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, est un Dieu parfaitement juste, devant qui tout homme, toute femme sont reconnus menteurs, fautifs. Un Dieu qui passerait l'éponge sur les injustices de ce monde et sur les injustices que nous commettons ne serait pas juste. Un Dieu qui ne se mettrait pas en colère contre notre monde déchu ne serait pas juste. Un Dieu qui n'envisagerait pas de juger un jour le monde entier ne serait pas juste. Contrairement aux êtres humains pécheurs, Dieu n'est pas injuste. Heureusement, il est tout autre et en bonne position pour nous juger. Regardons maintenant la deuxième vérité qui ressort de notre texte et qui va sans doute nous enfoncer encore plus. Il n'y a pas d'injuste. Vous avez sans doute déjà entendu ce genre de discussion philosophique autour de la question « L'homme est-il naturellement bon ?» Et je crois qu'un certain nombre de nos contemporains le pensent. L'homme est naturellement bon. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau l'a aussi pensé, il l'a défendu. Pour lui, l'homme est naturellement bon, par nature il est bon, mais c'est la société qui l'a perverti. Vous avez déjà entendu ce raisonnement-là ? Ça vient de Jean-Jacques Rousseau, entre autres. Ce que dit Paul dans la suite du chapitre 3 va à l'encontre d'une telle pensée, à commencer par le verset 9. Verset 9, que dire donc ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Voilà la réalité que nous connaissons malheureusement. Littéralement, juifs et non-juifs, autrement dit toute l'humanité, sont sous le péché. Pour les uns, comme dans notre version Second 21, cela signifie dominé par le péché. Et puis pour d'autres, comme dans la version Semeur, cela signifie coupable parce que pécheur. Dans le même psaume 51 que nous avons évoqué tout à l'heure, David écrit, psaume 51, verset 7, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Ce qui caractérise l'homme naturel, ce n'est pas la bonté, mais le péché. Les parents qui sont parmi nous, mais même tous ceux d'entre nous qui ont déjà observé des enfants, savent que les enfants sont pécheurs et le manifestent très tôt. Et je reprends aussi une illustration de Paul Washer que j'adapte un petit peu. Observez. Observez ce qui se passe quand vous expliquez à un enfant qu'il doit partager son jouet avec son frère ou sa sœur ou avec un autre enfant, quand vous retirez ce jouet de ses mains, si vous arrivez à le retirer, pour le donner à l'autre enfant, qu'est-ce qui se passe en général ? L'enfant à qui vous avez retiré le jouet va rester calme et accepter la situation et il va manifester son sens du partage. La plupart du temps, je pense, hein, je n'ai pas fait d'études statistiques sur la question, mais la plupart du temps, avec une certaine violence, cet enfant va vous montrer qu'il n'est pas content, que ce jouet est à lui. Il va peut-être même l'arracher violemment des mains de l'autre enfant. Et là, vous assistez à un conflit majeur qui dégénère, avec des coups et des hurlements. L'homme, l'être humain, est-il naturellement bon ? Paul, dans son développement, depuis le chapitre 1 de son épître, n'a voulu souligner que cette réalité que nous avons entendue encore et encore, mais que nous avons besoin d'entendre encore et encore. Tous les hommes, juifs comme non-juifs, sont pécheurs et donc coupables devant Dieu. Et ce n'est pas une affirmation nouvelle que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, déjà, nous avions également ce témoignage contre l'être humain. Des versets 10 à 18, Paul énumère plusieurs versets tirés des psaumes et du prophète Ésaïe. On peut afficher le tableau que j'ai préparé, je ne vais pas le commenter, mais juste que vous puissiez voir qu'il a pris plusieurs versets ici ou là pour cette citation, cette longue citation. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Ce portrait peu flatteur concernait dans les psaumes les méchants, les ennemis du peuple de Dieu ou les ennemis de David. Chez Ésaïe, cette description concernait les Israélites eux-mêmes qui commettaient toutes sortes d'injustices. Alors qu'est-ce que Paul est en train de faire ici ? Eh bien, il applique ses paroles à l'ensemble de l'humanité. Ce n'est plus seulement les ennemis du peuple d'Israël ou même les Israélites qui pécheraient au sein du peuple. Mais Paul applique cela à l'ensemble de l'humanité. Vous vous êtes peut-être reconnu dans l'enfant qui voulait absolument garder son jouet pour lui. Tout à l'heure, lors du jeu de la vérité, à un moment donné, plus personne ne pouvait se tenir debout. Car il est vrai qu'il m'est déjà arrivé de me servir de ma langue pour tromper les autres. Il est vrai que par mes paroles pleines de venin, j'ai pu blesser des gens. Alors c'est vrai que je n'ai pas couru pour verser le sang, mais je n'ai pas toujours cherché la paix. Il est vrai que j'ai été à l'origine de conflits que j'ai moi-même provoqués. Il est tout aussi vrai que lorsque je pèche contre Dieu, je montre bien par là que la crainte de Dieu ne m'anime plus. Alors oui, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et si Dieu n'était pas intervenu en notre faveur, nous n'aurions jamais eu idée de le chercher, tant nous étions corrompus, tant nous ne voulions pas de Dieu. L'apôtre Paul est donc en train de dire aux chrétiens de Rome qu'aucun d'entre eux ne peut se vanter d'une justice personnelle. Dieu nous dit cet après-midi qu'aucun d'entre nous ne peut se vanter d'être juste à aucun moment de notre vie. Devant le Dieu juste, saint et parfait, soit nous sommes justes selon ses exigences, soit nous sommes coupables. Et l'apôtre ne ménage aucun suspense à ce sujet-là. Regardez les versets 19 et 20. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit. » afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Après avoir cité l'Ancien Testament, la loi de Dieu, Paul met en évidence qu'en tant que pécheurs, nous n'avons rien à dire pour notre défense. Il n'y a pas d'excuse à trouver. Nous ne pouvons pas accuser la société qui nous entoure ou accuser nos parents qui n'ont peut-être pas toujours été présents pour nous. Nous ne pouvons pas trouver de circonstances atténuantes. Nous ne pouvons pas dire à Dieu « J'ai péché parce que j'ai été blessé dans ma vie. » Il n'y a aucune justification qui tienne. Même la meilleure ou le meilleur d'entre nous, en termes de qualités humaines, ne peut ouvrir la bouche devant Dieu. Et Paul le dit peut-être pour le juif en particulier, ce n'est pas parce que tu vas chercher à obéir à la loi que Dieu va te déclarer juste. Malgré nos meilleures intentions, si nous cherchons à obéir à Dieu, cela reste abyssalement insuffisant. Tout simplement parce que le Dieu qui est juste n'admet aucune injustice, qu'il exige la perfection. Un 19 sur 20, ce n'est pas assez pour lui. Ce qui est, donc Dieu exige la perfection, ce qui est hors de notre portée. Nous pouvons être la personne qui ne manque pas un seul dimanche à l'église, qui participe à toutes les études bibliques, qui lit la Bible tous les jours, qui prie le jour comme la nuit, qui est généreuse avec son argent et son temps pour les autres. Cela sera toujours insuffisant pour que Dieu puisse nous déclarer juste. Jacques chapitre 2, versets 10 à 11. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pèche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Ceux qui pensent que le christianisme n'est qu'une liste de règles à suivre, se trompent s'ils croient que nous cherchons à suivre de telles règles pour espérer aller au paradis. Ça s'appelle du légalisme. C'est le fait d'obéir scrupuleusement aux commandements de Dieu en espérant obtenir sa faveur. Une personne qui a une telle attitude, qu'on appelle légaliste, Dieu la déclare coupable. La loi que Dieu nous a donnée ne fait que nous révéler ce que Dieu appelle péché. La loi de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit, ce que Dieu a ordonné, nous conduit à cette prise de conscience qui est essentielle pour chercher le secours, le salut auprès de Dieu. Et cette prise de conscience, c'est de savoir que nous sommes pécheurs. Et malheureusement, nous n'avons pas péché seulement contre un commandement. Il nous arrive d'être dégoûtés de nous-mêmes. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. À cause d'une faute que nous avons commise. Je ne vais pas vous faire lever ou asseoir. Mais sans doute qu'il nous est arrivé à un moment donné dans notre vie, parce que nous avons fait quelque chose d'assez grave, d'être même dégoûtés de nous-mêmes. Nous nous sentons coupables et nous avons bien raison d'avoir un tel sentiment. Mais sommes-nous dégoûtés de nous-mêmes pour n'importe lequel de nos péchés ou seulement pour les plus graves ? Est-ce que faire preuve d'égoïsme de temps en temps nous dégoûte moins que de dire des paroles blessantes sous le coup de la colère, ou bien de s'adonner à la pornographie? Est-ce qu'on est moins dégoûté parce qu'on reconnaît qu'on est un peu égoïste, mais un peu plus quand il s'agit de d'autres péchés? Est-ce que Dieu a en horreur certains de nos péchés plus que d'autres? La loi de Dieu nous fait connaître ce qu'est le péché à ses yeux. Et voici ce que Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, disait au sujet du péché. Il fait toute une énumération, et je vous la lis. « Le péché est incrédulité énorme, doute, désespoir, mépris quotidien de Dieu, haine, ignorance, blasphème de Dieu, ingratitude, abus du nom de Dieu, négligence, lassitude, mépris de la parole de Dieu. » Prenons conscience que le péché que nous pouvons encore commettre n'est jamais rien. Ce n'est jamais rien. Il n'est ni excusable, ni mignon. Il n'y a pas de péché mignon. C'est une expression malheureuse. Le péché est au contraire horrible. Et ça, quelle que soit sa forme. Je défie quiconque de me prouver le contraire. Le péché est horrible. Le péché est exactement ce que Dieu ne veut pas. Le péché est exactement ce que Dieu déteste, ce qu'il a en horreur. Et pourtant, nous le commettons. Parfois inconsciemment et bien souvent volontairement. Et si nous comprenons que nos péchés sont toujours dirigés contre Dieu, il est clair alors que Dieu a toutes les raisons d'être en colère contre ce monde dont nous faisons partie. Ne prends pas ton péché, quel qu'il soit, à la légère, comme le fait notre société. Notre société qui passe l'éponge sur tellement de mal, qui défend le droit à l'avortement, qui encourage le mariage homosexuel, ou la possibilité déjà pour un jeune mal dans sa peau de changer de sexe, qui ne fait rien ou peu pour empêcher nos enfants d'avoir accès à la pornographie. Ce n'est pas parce que notre société qui rejette Dieu tolère un certain nombre de péchés que nous pouvons nous permettre de tolérer nos propres écarts. Notre péché est toujours, toujours dirigé contre Dieu. Notre péché est toujours une rébellion, le poing levé contre le Dieu bon, entièrement saint et parfaitement juste. Que devons-nous faire alors? Bien sûr, reconnaître nos torts comme Dieu nous les révèle cet après-midi. Demander pardon à Dieu. Oui, Dieu qui est prêt, nous l'avons chanté aussi, qui est prêt à nous pardonner. Parce que notre châtiment, celui que nous méritions, est tombé sur le seul juste que la terre ait connu, Jésus-Christ. Et un chrétien écrivait que Dieu ne pardonne pas par simple indulgence, en se disant « ça va aller, ils sont faibles, je vais leur pardonner ». Dieu ne pardonne pas par simple indulgence, mais parce que sa justice a été satisfaite. Parce que le prix a été payé, voilà pourquoi Dieu pardonne, mais pas parce qu'il est gentil avec nous. Et cela nous fait prendre conscience que notre péché à un tel coup qu'est la croix. N'importe de nos péchés. Même celui qu'on trouve peut-être le plus insignifiant. Même celui avec lequel on serait le plus indulgent, en se disant, je suis comme ça, c'est pas grave. Non, n'importe lequel des péchés nous rappelle que c'est horrible devant Dieu et que ça a coûté la vie à notre Seigneur Jésus-Christ. La seule application que nous pouvons tirer du texte de cet après-midi, c'est la repentance. Dieu est juste et je ne le suis pas. Et je suis profondément désolé pour le mal que je continue de faire aux autres, à moi-même aussi. Qui d'entre nous, par ses habitudes de vie, alimentaires, au niveau de la santé, au niveau du sommeil, n'a pas un comportement qu'on dirait un petit peu autodestructeur? Lorsqu'on ne fait pas assez attention à soi-même, est-ce que ça ne ressemble pas à un comportement autodestructeur? Je suis profondément désolé d'offenser Dieu quand volontairement je fais le contraire de ce qui est juste, le contraire de ce qu'il veut, le contraire de ce qu'il appelle bien. Et ce que je peux vous suggérer, c'est que cette semaine, nous prenions le temps de lire le psaume 51, de réfléchir sur ces paroles de David qui était sincèrement désolé devant Dieu, pour nous approprier ces mots. Et je vous invite à fermer les yeux et je terminerai en lisant quelques versets de ce psaume 51 en guise de prière. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Alors que nous avons peut-être bien pris conscience des horreurs que nous commettions contre Dieu, la suite du texte de Romains 3 nous révèle la justice admirable de Dieu qui nous sauve. Et j'aimerais lire ce passage pour introduire le moment de Sainte-Cène. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoigne la loi et les prophètes a été manifesté indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes, par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Si effectivement nous reconnaissons qu'il n'y a rien de juste ou de suffisamment juste en nous, si nous reconnaissons que nous méritons le jugement de Dieu pour nos péchés, alors il ne reste qu'une possibilité, une seule possibilité pour ne pas être condamné. Mettre toute notre confiance en Christ, le seul juste, qui est mort pour nos péchés, qui a pris notre place sur la croix, qui s'est sacrifié volontairement pour nous. C'est la seule possibilité. Oui, à celles et ceux qui croient, Dieu les déclare justes. Je ne vais pas en dire davantage parce que c'est le texte de la semaine prochaine. Mais déjà, nous comptons entièrement sur l'œuvre de Jésus-Christ qui nous donne accès à Dieu et à son généreux pardon. Quand Jésus a vu son heure arriver, il a laissé à ses disciples un repas qui devait être pris aussi longtemps qu'il serait absent, c'est-à-dire jusqu'à son retour. Le pain nous rappelle que son sacrifice a impliqué son corps et la coupe, son sang. Et si nous avons retenu cet après-midi l'horreur de nos fautes, nous tombons à genoux devant un tel sacrifice pour nous. Pour nous qui sommes des hommes et des femmes injustes par nature. Et celui qui est mort pour nous, nous relève et nous invite à cette table.